Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Cet épisode de Nos Ciné vous est présenté par Séance Radio, la radio 100% cinéma.
Bonjour, c'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma, celui d'aujourd'hui évidemment, mais aussi celui d'hier. Dès qu'on en a l'occasion, vous le savez, on n'hésite pas à déballer notre bonne vieille machine, à remonter dans le temps et replonger dans les délices du cinoche du temps jadis, surtout lorsqu'on a l'excellente excuse de la ressortie d'une pépite telle que Big Trouble in Little China du grand John Carpenter, l'occasion rêvée de passer une petite vingtaine de minutes à causer de Jack Burton et de ses aventures dans les griffes du mandarin avec le duo d'aventuriers sans peur et sans reproche réunis ici en public à la recyclerie Julien Dupuis. Salut Julien.
Salut.
Et Stéphane Moïsaki. Salut Stéphane.
Salut Thomas.
Allez, c'est Nos Ciné épisode 119 et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Big Trouble in Little China, 1986. Super année si vous voulez mon avis. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir ça sur grand écran à l'époque, ça ressort donc dans une poignée de salles dans une version restaurée. Pour ceux qui débarquent totalement, disons un mot du pitch. Jack Burton, alias le mirifique Kurt Russell, aimable chauffeur routier de son état, se retrouve suite à une série d'imbroglios démarrant à l'aéroport de San Francisco, embarqué dans une ancestrale lutte dans les tréfonds de Chinatown où lui et son ami Wang Chi, Dennis Dunn, vont affronter le terrible magicien déchu David Lopan, joué par James. Et comme toujours, une musique de légende, comme pour tous les Carpenters. Je crois que c'est lui qui chante sur le morceau. C'est son groupe, hein, c'est ça. C'est
eux qui avaient il est dans le clip.
Il est dans le clip, ouais. Le clip était assez mémorable aussi. On l'a dit, la caméra donc est tenue par nul autre que Big John Carpenter. Que dire de Big Trouble in Little China, messieurs? Qui veut commencer? Stéphane va vouloir que ce soit Julien qui commence. Je bah, sens vas-y, venir gros comme une maison. Julien, vas-y, c'est à toi.
Non, mais surtout,
c'est compliqué.
Non, mais déjà, il ressort en salle grâce à Splendor et il faut voir les Carpenters en salle.
Bah oui, c'est toujours
mieux. Voilà, parce que le scope, rien que ça, et c'est des films à tester en salle.
Il y a toute une génération qui est passée.
Voilà, à côté de ça, ouais, bien sûr. Et je pense qu'on redécouvre totalement les films de Carpenter quand tu les vois en salle. C'est une expérience vraiment très très différente de les voir sur sa télé, aussi grande soit-elle, et de les voir en salle. Et je crois qu'il y a une restauration en plus.
Oui, c'est une version restaurée.
Voilà. Donc voilà, c'est du tout bon. C'est un film bizarre.
Oui.
C'est un film formidable. C'est un film un peu étrange. Et c'est un film un peu étrange qui est un peu étrange même dans la carrière de Carpenter, qui est pas franchement versé dans la comédie ou le feel good movie. C'est-à-dire que bon, il en a fait. Hein, oui. Il a les Aventures d'un homme invisible, par exemple. Hein. Et puis il peut y avoir des petits moments d'humour
dans ces films,
ouais, ouais. Un peu mordant, mais
ça là, plus dans l'ironie que dans le comique réellement.
Et je pense que c'est un des films où il s'est fait le plus plaisir. Enfin, c'est comme ça que moi je l'appréhende. C'est-à-dire que c'est un film qui est sorti en 86, comme tu l'as rappelé, et c'est une époque où, à part chez les cinéphiles assez hardcore, on connaissait pas très bien en fait le cinéma asiatique et en particulier le cinéma hongkongais. Carpenter, je pense, a conçu une partie de Jack Burton comme une espèce de porte d'entrée vers ce cinéma-là. Mais il l'a conçu avec une déférence incroyable et donc résulte en fait le personnage principal qui est Jack Burton, qui est le héros blanc de l'histoire et qui est aussi un crétin patenté, qui va beaucoup plus subir les événements qu'il ne va les initier en fait, et qui est un peu là comme un boulet. Alors tu t'identifies à lui parce qu'il a un capital sympathie énorme, parce que c'est Kurt Russell au meilleur de sa forme, etc. Mais tout ça est fait en fait pour t'amener à apprécier, à appréhender en fait cet univers, c'est-à-dire qu'il va pénétrer dans le Chinatown de San Francisco, comme le spectateur est amené à pénétrer en fait dans cette cinématographie très étrangère, un peu étrange, à la fois noire et complètement fantasque, et le tout avec un vrai côté pulp. C'est un film qui est totalement désinhibé, notamment il y a un truc qui est fascinant, surtout quand on est venu à Carpenter par des films comme The Thing. Il y a une façon qu'il a de filmer les monstres, par exemple, que moi je ne retrouve pas ailleurs. Peut-être un petit peu dans Invasion Los Angeles, aussi étant dit, mais il les filme de façon hyper frontale. Ils sont un peu cheap, totalement fous dans leur design. Et puis je vais expliquer après pourquoi. Mais c'est voulu en fait. Mmh. Et ça participe en fait du côté extrêmement festif et jubilatoire du film. Festif et jubilatoire, je crois que j'ai déjà utilisé ça pour un autre ciné. Hein, c'est possible.
C'est possible. On regardera dans les archives.
Donc il y a cette différence là. Carpenter.
C'était à propos de Mother de Darren Aronofsky.
C'est possible. Et à laquelle a participé en fait toute l'équipe du film. C'est-à-dire que je parlais des designs un peu fous. Ouais. Il se trouve qu'il y avait un mec en fait qui a co-créé en fait tous ces monstres. Ces monstres étaient créés par Steve Wong, mais dans Steve Johnson, mais dans l'équipe de Steve Johnson, il y avait un créateur japonais qui s'appelle Screaming Matt George, qui a fait les grandes heures du film de monstres en mousse de latex des années 80 au début des années 90, et qui est responsable d'une bonne partie du design des créatures, qui a un style très particulier. C'est quelqu'un qui est extrêmement inspiré de Dali, par exemple, et il y a une boule formée de quantités d'yeux en fait qui sont en train de regarder. C'est du pur Screaming Matt George. Il y a une vraie patte et une vraie touche là-dedans. Et pareil, il y avait un animateur, son nom m'échappe, excusez-moi, mais il y a un animateur qui était chargé de dessiner des éclairs. Il y a des très beaux effets spéciaux à base d'éclairs en fait dans Jack Burton. Il avait pris soin de cacher des idéogrammes chinois à l'intérieur de ces éclairs. Et tout est à l'avenant comme ça. Et l'autre truc aussi qui est assez étonnant en fait dans Jack Burton, mais qui participe à mon sens en fait du respect de Carpenter pour toute cette cinématographie, c'est que il essaye de créer son propre, alors je sais pas comment on pourrait dire, son Bouchapian, enfin son film d'action chinois on va dire, mais en l'estampillant Amérique, et ce qui se sent énormément par exemple au niveau de la direction artistique, qui moi à l'époque m'avait énormément déstabilisé, mais il a fallu j'ai un peu de temps et un peu de réflexion en fait pour l'apprécier et l'appréhender. Mais c'est génial en fait, c'est à dire que il te crée un monde souterrain et magique, mais en mettant des néons et des escalators et électriques, parce que bah voilà, les Chinatown américains, et bah, ils possèdent ça en fait dans leur décorum, et donc c'est américanisé également là-dedans. Voilà.
Stéphane,
je rebondis directement sur ce que tu dis.
Voilà,
il faut savoir que le film à la base c'était un western. Donc c'était ça le sujet du film en fait, c'était la culture en fait, la façon dont les deux cultures en fait allaient s'affronter, en fait, la culture américaine, le western pur, et en fait la culture asiatique chinoise, et le wuxiapian, et le film d'arts martiaux, le film de sabre. Donc et c'est un film qui a été ramené à l'époque actuelle, étonnamment en fait à cause de Carpenter, parce que le scénario était écrit par W.D. Richter, qui est le scénariste du remake de l'invasion des profanateurs de sépulture par Philip Kaufman dans les années 70. Il a aussi écrit Brubaker, il a écrit et il a réalisé surtout un autre film complètement dingue des années 80, qui est Les Aventures de Yukaro Banzai dans la 8e dimension, je crois que c'est ça le titre français. Ouais. Et qui est un film qui devait à la base avoir une suite et qui s'est tellement planté parce que c'est un film complètement barge.
Que la suite n'a jamais vu le jour,
et que du coup en fait il a repris quelques idées de son scénar de suite en fait pour les foutre dans Jack Burton. Donc du coup il y a aussi ce biais de folie totale qui était déjà sur le papier quoi. Je pense que celui qui l'a ramené par contre à des considérations plus terre à terre, c'est Carpenter en fait qui a dit moi je peux pas, c'est soit on fait un western soit on fait un film fantastique, mais je peux pas faire les deux en fait. Il se voyait pas faire ça en fait. Et du coup en acceptant de faire le film de nos jours, enfin dans les années 80 donc, à l'époque, en gros c'est...
On est un
c'est...
peu dans les années 80, les années 2000. Regarde, les gens regardent Stranger Things, ils trouvent ça super. Donc c'est,
mais c'est pas les années 80 Stranger Things, voyons.
C'est l'image.
C'est les années 2010. Donc pur et dur. Mais le truc, c'est que voilà, donc il y avait vraiment cet ancrage là. Et alors effectivement, je vais rebondir sur le truc que disait Julien, qui est un des films les plus festifs de Carpenter, mais aussi parce que je pense qu'en fait il est vraiment à un point charnière, ce film, dans la carrière de Carpenter, pour deux raisons. Quatre ans avant, en fait, il sortait d'un échec qui a été très très douloureux, qui est celui de The Thing, et qui était un film mais d'une noirceur et d'une comment dire,
d'un pessimisme total.
D'un pessimisme,
c'est totalement un film désespéré. Oui.
Voilà, et même comment tu dis quand t'aimes pas les humains, enfin, je perds le mot.
Misanthrope.
Merci les gars. Voilà, heureusement que j'ai mon dico sous la main. C'est un film vraiment misanthrope. En fait, c'est un film qui pose vraiment aucune. Enfin, il y a aucun espoir. Quoi. Oui. C'est un film mauvais.
Bien compris que t'es pas en train de dire que c'est un mauvais film.
Et il se l'est pris en pleine gueule. Ouais. Il se l'est pris littéralement en pleine gueule. Et ça, il en a chié, en fait. Tu regardes les photos de tournage des films de Carpenter à cette époque-là. Il a vieilli à une vitesse grand V. Bon, il a une maladie de peau qui est un peu connue maintenant, mais on ne le savait pas forcément à l'époque. Et du coup, en fait, tu le vois vieillir à vitesse grand V. Carpenter, qui avait même pas 40 balais à l'époque, et qui a l'air d'en avoir 60 déjà, en fait, sur le tournage de Invasion Los Angeles, en fait. Parce que justement, le truc qui s'est passé, c'est que même en partant sur ce côté complètement festif que tu voyais déjà, c'était, par exemple, Starman, c'est un film qui était beaucoup plus optimiste. Même quand tu voyais ça, en fait, même quand il essayait d'aller dans cette direction-là, le public ne suivait pas vraiment. Starman, ça a un petit peu marché, mais tu sens que c'est un film qui a été fait en réaction au succès d'E.T., y compris pour Carpenter. Moi, j'adore le film, mais c'est voilà, parce que Carpenter ne peut pas faire des films malhonnêtes, c'est ça le truc que tu peux pas lui enlever, quoi. Et c'est pareil avec Jack Burton, c'est un film qui s'est fait très très vite. La Fox l'a enclenché le film très rapidement. Ils ont demandé, ils ont dit ok, si vous faites le film, on a une date, c'est dans 8 mois, vous balancez le film, et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est effectivement le côté, on va dire, entre guillemets, film de studio, tourné dans un studio, et ça se voit, en fait, si tu veux, je pense que ça participe, mais Carpenter n'a jamais eu de problème avec ça, donc non. Il est vraiment allé à fond, il a toujours assumé le côté très cinématographique, en fait, très années 60, 70 de son cinéma, en fait, parce que même dans les années 70, il faisait déjà du cinéma des années 60, on va dire, entre guillemets, c'était des années 40, 50, c'était ses maîtres à penser, c'était Howard Hawks, c'était des mecs comme ça, qui étaient clairement des réalisateurs de studio, en même temps des francs-tireurs, quoi. Et là, cette approche, en fait, chez lui, qui est là complètement, c'est-à-dire qu'il voulait faire des films de studio, c'est quelqu'un qui voulait travailler dans ce système-là, mais qui en même temps, en fait, voulait être lui-même dans ce système-là. Il s'est complètement planté, parce que ça ne marche que quand t'as du pouvoir, on va dire, auprès du studio, et le pouvoir, c'est quand t'as fait des succès. Et là, Carpenter commençait vraiment à être à court, et c'est à cause de ce bide-là, en fait, enfin de la succession de bides, mais surtout celui-là, qu'il est reparti faire des plus petits films comme Prince des Ténèbres, qu'il a vraiment fait pour $1 million, quoi. À l'époque, c'est juste complètement dingue de se dire que le mec, il a fait ce film-là de cette qualité-là pour si peu. Pareil avec Invasion Los Angeles, en fait, et qui sont des films qui, comment dire, pour le coup, et surtout, moi, je trouve Invasion Los Angeles qui, enfin, est assez éclair, en fait, sur la façon dont Carpenter aborde toute cette période capitaliste de merde, enfin, etc. C'est pour le coup, c'était vraiment un film de son époque, en fait, Invasion Los Angeles, et qui est vraiment, enfin, qui a un décrassage, total, immédiat.
À la sulfateuse.
Voilà. Et le truc, en fait, qui est étonnant, c'est, moi, je trouve ça étonnant, en fait, parce que il faut aussi maintenant recontextualiser le truc, c'est qu'on est 30 ans après, plus, et c'est un film culte. C'est littéralement un film culte. Ils sont en train de parler d'un remake avec comme tous les films, tu me diras, avec The Rock, ce qui est quand même une idée de merde totale, quoi. Et ça m'étonne pas, en fait. Ils sont en train de parler de ça parce que, en fait, les mecs se disent, mais attends, y a, c'est un film qui ressort, je sais pas combien de fois en DVD, je sais pas combien de fois en Blu-ray et tout, et qu'il y a au moins 3 coups d'édition Blu-ray différentes, parce qu'il y a un vrai culte autour du film qui s'est formé. Et je suis étonné, en fait, que certes, le film, il allait à contre-courant, en fait, de cette époque-là. Ce que dit Julien sur le personnage principal de Jack Burton, qui est pas seulement, en fait, la porte d'entrée, mais qui est surtout, en fait, le crétin sur lequel les héros chinois vont pouvoir s'appuyer pour avancer.
Carpenter l'a toujours dit qu'il l'avait tourné comme un personnage de sidekick, en fait.
Totalement,
c'est le sidekick de son fameux ami.
Mais ça n'a jamais été présenté comme ça au public.
C'est ça
aussi la différence, c'est que t'as une star qui joue le sidekick. Les Chinois sont les héros du film parce que ça se passe dans leur univers, dans leur culture, et ça, c'est complètement à contre-courant. C'est-à-dire que voilà, effectivement, quand tu réfléchis un petit peu, tu te dis bon, c'est un film qui introduit la culture chinoise, enfin la cinématographie chinoise dans le cinéma américain, dans le blockbuster en plus, les gens connaissent pas. En général, c'était, quand ça sortait, c'était des films hyper mal doublés, cutés. Qui passaient pour des films risibles, qui passaient pour des films risibles aux yeux du public, quoi, qui pouvaient pas les voir dans des bonnes conditions. En plus, c'était considéré comme du cinéma un petit peu trash parce que c'était vraiment pour les cinémas de quartier, dans des
cinémas.
Parce
que c'était un peu gore aussi, parce que voilà, c'est ça
le
aussi.
Le cinéma d'exploitation, c'était considéré comme ça dans des drive-ins, c'était un peu dégueulasse.
Ils ont pas les mêmes tabous en Asie. Quoi.
Donc voilà, et donc le film fait ça, en fait il a fait ça, hein. Je veux dire, moi je pense que objectivement, même si les films n'ont rien à voir, tu pourrais pas avoir Matrix si t'avais pas eu les aventures de Jack Burton dans les blockbusters américains, ou l'arrivée de John Woo aux États-Unis, enfin ce genre de choses, quoi. Et en fait, en même temps, c'est un film qui dit en gros aux Américains, vous êtes tous des gros blaireaux. Voilà, en gros, hein, c'est votre personnage fétiche, là, le gros routier qui pue sous les bras. Bah, c'est, même s'il est sympa, vous êtes sympa, on aime bien boire des coups avec vous, mais vous êtes quand même des gros blaireaux. Et des blaireaux sympas, mais bon, voilà. Et du coup, bah ouais, forcément, le public s'est rejeté. Mais pourtant, ce que je trouve étonnant, c'est que tu peux pas, pour moi, tu ne peux pas voir le film autrement que ce qu'il est vraiment. C'est-à-dire, c'est un film qui est tellement clair dans ses intentions, qui est tellement direct, comme tout le cinéma de Carpenter qui a jamais joué, les vierges effarouchées, qui a toujours traité son sujet de manière directe, frontale, que bah, je m'étonne quand même du succès a posteriori, du coup, tu vois, de voilà. Et alors, voilà, moi j'aimerais préciser aussi un petit truc, c'est à ce point un film culte, entre guillemets, c'est un terme qui est un peu galvaudé, donc j'aime pas trop l'utiliser, mais voilà, que t'as aujourd'hui des gens qui le référencent dans leur film. Et t'as envie de leur dire, putain, mais revoyez-le, les mecs, parce que vous êtes totalement à côté de la plaque. Quant à James Gunn sur Les Gardiens de la Galaxie, ou Taika Waititi sur Thor Ragnarok, qui cite ouvertement, qui disent, bah, c'est mon Jack Burton, pour dire, voilà, on a essayé de faire ce film un peu déluré, un peu fun. Parce que oui, il y a ce côté-là, hein, clairement, dans Jack Burton. C'est, alors, tel cavalier de l'Apocalypse, il s'énerve, et il gonfle, et pff, il pète, tu vois. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est cool, quoi, parce que c'est fun, qu'on l'a jamais vu. Et du coup, en fait, le truc, c'est que qui est ça, en fait, voilà, ça fait sens quand même malgré tout dans cet univers-là. Ouais. Et je trouve que le problème, en fait, d'un Thor Ragnarok ou d'un film comme Les Gardiens de la Galaxie, au-delà du fait que tous les personnages sont Jack Burton et il y a pas le héros chinois du groupe, justement, tu vois, il y a pas le héros noble, le vrai personnage, en fait, qui va entre guillemets, quand je dis sauver la princesse, ce genre de choses, enfin bref, les archétypes de base, ce personnage là en fait n'existe pas, le personnage héroïque qui a ce parcours là n'existe pas vraiment dans ces films là c'est ça qui est problématique. Donc du coup, en fait, on se retrouve avec des vrais films d'idiots au lieu de films intelligents qui mettent en scène des idiots. Et c'est un peu...
C'est
la grande différence.
Avec Jack Burton. Ouais,
mais Julien, c'est-à-dire que l'humour n'est jamais fait au... C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on respecte, en fait, dans Jack Burton. Et que l'humour ne va pas partout pour faire un bon mot. Il y a une utilisation très précise. Moi, je peux comprendre qu'au regard de l'évolution des blockbusters actuels, qu'il y ait cette volonté de vouloir faire un remake, parce qu'on pourrait croire, en regardant juste la surface et pas très bien le film, qu'on est dans cette catégorie-là. Sauf que non, pas du tout. À tel point d'ailleurs que je trouve qu'il y a dans... Et ça participe d'ailleurs de l'étrangeté du film, il y a dans Jack Burton ces moments un peu inquiétants et un peu bizarres qu'on retrouve dans tous les Carpenters. Il y a des choses un peu gore, il y a des choses... des amorces d'ambiance qui sont déplaisantes, en fait. C'est à la fois un feel good movie, mais il y a des fois avec des choses qui te démangent un peu, qui te dérangent et qui te déstabilisent, quoi. Et à mon avis, effectivement, s'il faut un remake avec The Rock, plus jamais tu auras ça, quoi. Tu n'auras plus rien, tout sera polissé.
Ce sera l'enfer, l'apocalypse. Voilà. Pour le coup, ce sera lui qui pètera dans le film, sans doute. Avant de se quitter, messieurs, on va pas déroger à la règle, même si c'est Carpenter. Tant pis, c'est l'heure des recommandations. Vous avez comme toujours le champ libre, vous pouvez rester dans l'univers de Big John, mais vous faites comme vous voulez. Stéphane, tu te sens
ouais,
d'humeur,
mais moi,
quoi.
Je crois que j'ai déjà fait cette reco une ou deux fois.
C'est possible.
Mais c'est pas grave,
c'est pas la première fois qu'on parle de Carpenter dans
cette
émission.
En plus, tu vois, je vais tirer la référence à mon ami Julien Dupuis, ici présent. Julien Dupuis,
ouais, c'est comme ça.
Qui m'avait offert ce bouquin, la Onset with John Carpenter, en fait, qui est un super bouquin en noir et blanc avec des photos, en fait, des premiers films, des photos de tournage des premiers films de John Carpenter.
Vous faites des petits cadeaux, c'est adorable.
Beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'amour, tu vois.
Voilà, c'est l'amitié, ça s'appelle l'amitié.
Non, non,
Ouais,
c'est ça.
Et,
je trouve ça beau.
Et c'est un très beau bouquin en fait de cinéphile, hein, qui vraiment se concentre sur la toute première partie de la filmographie de Carpenter, hein, et qui montre, bon, c'est les photos de tournage de Halloween, Fog, c'est vraiment cette partie là quoi. Et voilà, enfin je trouve que c'est un bouquin que les fans de John Carpenter peuvent vraiment s'offrir pour avoir ça dans leur ou avoir un ami qui leur offre
un ami fidèle, comme toi,
voilà.
Julien,
il y a un livre qui est sorti il y a, je crois, il y a un an environ, mais non, pas encore, je sais pas ce qui trafique,
tu prends des notes
avec
Stéphane.
Des photos de tournage, ouais, de Jack Burton dans Griffes du Mandarin, voilà, et également des photos chez Boss Film, etc. Donc ça, c'est ma première reco. Ma deuxième reco, parce que moi j'aime bien en faire plusieurs, je suis désolé, ma deuxième reco, c'est le commentaire audio de Jack Burton dans Griffes du Mandarin, assuré par Carpenter et Kurt Russell, qui est une bonne façon de continuer l'éclat total qu'est le film, parce que alors là, ils sont hilares, ils n'arrêtent pas de faire des blagues, enfin c'est de la renfoire quoi, ouais. Et c'est absolument réjouissant.
Mais il est génial, ce commentaire audio, parce qu'en fait c'est un commentaire qu'ils ont enregistré à l'époque du DVD en 2001, je crois, qu'ils ont sorti le premier DVD en édition spéciale. C'est vraiment là où on a compris que le film était culte. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'en fait, à un moment donné, ils abandonnent littéralement le film, c'est-à-dire qu'ils sont en train, parce que ça fait longtemps qu'ils se sont pas vus, donc ils sont en train de prendre des nouvelles. Et ton fils, comment il va? Bah, il continue le hockey et tout. Ah, et d'un seul coup, en fait, t'as 20 minutes comme ça où ils partent à côté, puis à un moment donné, t'as Kurt Russell qui fait, on va peut-être parler du film, peut-être que ça les intéresse quoi. Ouais, ouais. Et en fait, ils répètent. Et c'est vraiment, c'est marrant parce qu'ils l'ont vraiment laissé dans le commentaire audio.
Et puis ils sont encore émerveillés et surpris par le film quoi, c'est-à-dire qu'ils ont. Et puis un petit truc, alors c'est pas du tout du niveau de Jack Burton, mais dans le côté un peu, c'est plus dans le côté film d'horreur, feel good et tout, un film qui a un peu disparu, je suis même pas sûr qu'il soit sorti en Blu-ray d'ailleurs, mais Stéphane dira peut-être l'inverse, qui est un film que j'aime bien moi, qui s'appelle Un cri dans l'océan. Alors c'est pas du tout du niveau de Jack Burton, encore une fois, moi j'aime bien ce film-là, avec réalisé par Stephen Sommers, le réalisateur de La Momie, mais à l'époque où il était pas encore totalement gréé par la cocaïne, tout ça, donc c'est un bon film, c'est rigolo. C'est sympa, il y a un gros monstre géant.
C'est sorti en Blu-ray américain. Ah, c'est sorti en double programme avec The Puppet Masters.
C'était un très gros. Ah ouais,
je l'ai, c'est pour ça que je le dis.
C'était un très gros.
Tu pourrais l'offrir à Julien.
Je l'offrirai à Julien.
Ça, c'est une bonne idée de cadeau. Hein. Vous m'appelez hein, si vous avez des questions. Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux. Merci à Jules à la technique. Merci à la recyclerie et au public pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez. Si vous voulez venir nous voir. Et en attendant, on vous dit à très vite.
Rosebud, j'adore mon boulot.
Vous êtes la crème de l'aristocratie française.
Vous avez compris ce que je vous ai dit?
Oui, cancer du poumon, inopérable.
Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe.
On ferait mieux de rebrousser de main, les gars.
J'ai fait du mal. J'ai compromis des missions.
Des policiers français, que les acheter, pas les tuer.
Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio et disponible sur toutes les applications podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.